Le vieux médecin affirme que des preuves indiscutables appuient la thèse d'une révélation formidable. D'abord, il y a ces deux ouvriers qui étaient avec Ward lorsqu'il découvrit les manuscrits de Kerven. Ensuite, il y a Willett lui-même qui les a vus et qui peut attester de leur authenticité. La niche dans laquelle ils étaient dissimulés est aussi une réalité bien tangible. Il y a également les lettres de Hutchinson et Horn, l'écriture de Ward, ce que les détectives ont découvert sur le docteur Allen, sans oublier le terrible message rédigé en lettres cursives minuscules que Willett retrouva dans sa poche quand il reprit connaissance après sa terrible aventure. Pour finir, il y a surtout le résultat effrayant que le médecin a obtenu au cours de son enquête grâce à deux formules qui établit indubitablement l'exactitude de ces manuscrits et leurs implications abominables à bannir à jamais de la connaissance humaine. Il faut se faire à l'idée que la première partie de la vie de Charles Ward fait aujourd'hui partie d'un passé révolu, tout comme ses vestiges et ses antiquités qu'il estimait tant. À l'automne 1918, avec un enthousiasme particulier pour l'entraînement militaire de l'époque, il commença sa première année au lycée Moses Brown, dont il avait toujours affectionné le bâtiment datant de 1919, situé dans un magnifique parc non loin de chez lui. Il était peu sociable et partageait son temps entre la classe et l'entraînement, de longues promenades et la poursuite de recherches généalogiques à l'hôtel de ville, à la bibliothèque publique, à l'Athénéum ou encore à la bibliothèque Shepley qui venait d'ouvrir ses portes dans Benefit Street. En ce temps-là, il était blond, grand et mince, un peu voûté, habillé négligemment, et il donnait une impression générale de maladresse inoffensive. Ses promenades étaient de véritables aventures dans le passé, au cours desquelles il parvenait, à partir des innombrables souvenirs de l'ancienne cité, à faire revivre les images de la vie d'autrefois. Il habitait une belle demeure géorgienne, située au sommet de la colline, à l'est du fleuve. Des fenêtres à l'arrière, on pouvait contempler l'amoncellement de clochers, de dômes, de toits et les sommets des gratte-ciels de la ville basse jusqu'aux collines violettes de la campagne lointaine. C'est là qu'il était né et que sa nurse l'avait promené, partant du porche classique de la façade en briques, passant près de l'ancienne ferme blanche construite il y a plus de 200 ans avant que la ville n'absorbe la campagne, poursuivant vers l'université le long d'une avenue somptueuse et ombragée, bordée à la fois d'anciennes demeures de briques, ornées de porches aux lourdes colonnes doriques, et de maisons en bois plus petites, mais qui toutes rêvaient, solides et exclusives, au milieu de leurs cours et de leurs spacieux jardins. On l'avait promené aussi un peu plus bas, dans Congdon Street, où les maisons se dressent sur de hautes terrasses, des maisons de bois plus anciennes, car au long des années, la ville avait grandi du bas de la colline vers son sommet. La nurse aimait s'arrêter là, s'asseoir sur un des bancs de Prospect Street, puis bavarder un peu avec un policier, et l'un des premiers souvenirs d'enfance de Charles fut cet océan de toits, de clochers, de dômes et de collines lointaines qu'il aperçut un matin d'hiver, dans un coucher de soleil apocalyptique où le rouge, l'or et quelques verts étranges se détachaient sur un violet mystique. Il se rappelait encore le dôme de marbre du Capitole, imposant sa majestueuse silhouette et la statue en son sommet qui perçait les stratus rayant le ciel enflammé. Quand il fut plus grand, ses fameuses promenades commencèrent. D'abord avec sa nurse qu'il traînait impatiemment, puis seul. Il s'aventurait de plus en plus loin, atteignant à chaque fois des quartiers plus anciens et plus curieux de la vieille ville. Il hésita un peu en descendant la pente raide de Jenks Street, bordée de pignons coloniaux pour atteindre Benefit Street, l'ombragée. Devant lui s'élevait une ancienne maison en bois à l'entrée décorée de deux colonnes ioniques, juste à côté d'une vieille ferme au toit mansardé qui avait conservé son allure campagnarde. Plus loin, on pouvait admirer la demeure du juge Durfee, témoin fatigué de la splendeur coloniale. Le quartier était délabré, mais les ormes géants parvenaient à faire oublier les taudis aux jeunes hommes qui déambulaient le long de ces demeures pré-révolutionnaires avec leurs grandes cheminées centrales et leurs portails classiques. Du côté est, les maisons étaient construites au-dessus d'un sous-sol plus élevé et étaient desservies par un double escalier de pierre. Charles rêvait en les imaginant telles qu'elles devaient être quand la rue venait d'être pavée. À l'ouest, la colline descendait vers le vieux quartier de Town Street que les fondateurs de la cité avaient bâti le long de la rivière en 1636. Il y convergeait d'innombrables allées bordées de masures d'âge avancé. Bien que fasciné par ces antiquités, Ward hésita longtemps avant de s'y aventurer, de crainte qu'elles ne recèlent quelques terreurs inconnues. Il trouvait moins risqué de longer Benefit Street en passant devant la grille métallique du cimetière Saint-John, puis à l'arrière de la maison des colonies bâtie en 1761, pour arriver enfin à l'auberge de la Balle d'Or, où George Washington séjourna en 1790. Arrivé à Meeting Street, qui s'était appelé autrefois Gaul Lane, puis King Street, il pouvait contempler vers l'est l'escalier de pierre qui gravissait la pente et vers l'ouest la vieille école en briques située juste en face de la tête de Shakespeare où l'on imprimait la Gazette de Providence avant la Révolution. Plus loin, on pouvait admirer la première église baptiste de 1775 avec son clocher dessiné par Gibbs et ses superbes coupoles. À partir de là, en allant vers le sud, le quartier s'améliorait, offrant aux promeneurs deux groupes de magnifiques demeures anciennes. Vers l'ouest, on retombait sur de petites allées aux maisons en ruine qui descendaient jusqu'au port, où les appontements de bois pourris, les magasins infects et une populace polyglotte se rappelaient les jours glorieux de la Compagnie des Indes orientales, dont on trouvait encore quelques réminiscences dans les noms des ruelles insalubres, Bullion, Gold, Silver, Coin, Doubloon, Sovereign, Dollar et Cent. En grandissant, Charles devint plus téméraire et s'aventura dans ce maelstrom de maisons bancales, de fenêtres borgnes, d'escaliers brisés, de balustrades tordues, peuplées de faces basanées et inondées d'odeurs indescriptibles. Tournant de South Main dans Southwater, il partait à la recherche des quais, où quelques vieux vapeurs continuaient obstinément à s'amarrer. Ensuite, il repartait vers le nord, passait les entrepôts construits en 1816, arrivait au square du Grand Pont et enfin à l'ancien marché couvert de 1773, toujours vaillant sur ses anciennes arcades. Là, il s'arrêtait pour boire un verre et apprécier la beauté fascinante de la vieille ville, couronnée par le gigantesque dôme de la nouvelle église de la science chrétienne, comme Londres est consacrée par le dôme de Saint-Paul. Il aimait particulièrement cette étape de fin d'après-midi quand le soleil couchant caressait le marché couvert et imprégnait de sa magie les quais où les voiliers des Indes accostaient jadis. Après une longue contemplation qui durait souvent jusqu'au crépuscule, il retournait chez lui, passant devant la vieille église toute blanche et grimpant le long des ruelles où, une à une, les lumières commençaient à briller à travers les fenêtres à croisillons. Au cours des années suivantes, il se mit à rechercher des contrastes plus marqués. Il passait par exemple la moitié de sa promenade dans les quartiers coloniaux un peu décrépits, notamment le ghetto noir qui entourait la place, où la diligence de Boston s'arrêtait avant la Révolution. La seconde moitié était consacrée à des lieux plus prestigieux du côté de George, Benevolent, Power et William Street, où le temps n'a pas corrompu les belles propriétés ni leurs jardins murés qui embaument de tant de souvenirs parfumés. Toutes ces promenades, associées à des études trop poussées, sont sans nul doute responsables de la tournure passéiste de l'esprit de Charles Ward et expliquent le terreau mental dans lequel des graines effroyables ont pu germer au cours de l'hiver 1919-1920. Le docteur Willett est convaincu que jusqu'à cet hiver maudit, il n'y avait rien de malsain dans les recherches de son patient. Il n'avait aucune attirance morbide pour les cimetières qui ne présentaient à ses yeux qu'un intérêt historique. Il ne montrait pas davantage de symptômes de violence. Puis, insidieusement, par degrés, on le vit changer après s'être découvert cet aïeul du côté de sa mère, un vieillard d'une longévité étonnante. Ce Joseph Curwen, arrivé de Salem en mars 1692 et qui faisait l'objet d'histoires étranges et inquiétantes. L'arrière-arrière-grand-père de Ward, Welcome Potter, avait épousé en 1785 une demoiselle Anne Tillinghast, fille d'une Madame Eliza Tillinghast, elle-même fille du capitaine Tillinghast, dont la famille Ward ignorait jusque-là l'existence. Fin 1918, en examinant un registre d'état civil, le jeune historien tomba sur une inscription de changement officiel de nom datant de 1772. Une Madame Elisa Curven, veuve de Joseph Curven, reprenait, ainsi que sa fille, âgée alors de 17 ans, son nom de jeune fille, Tellingast. L'inscription précisait « Le nom de son mari était devenu opprobre public pour des raisons connues après son décès, par quoi se voyait confirmée l'ancienne rumeur, jamais accréditée par une épouse loyale, jusqu'à ce qu'il fût indiscutablement établi qu'on n'en pouvait pas douter. » Cette inscription fut découverte lorsque deux feuillets du registre, qui avaient été soigneusement collés pour n'en faire qu'un, se détachèrent. Charles comprit immédiatement qu'il venait de se découvrir un arrière-arrière-arrière-grand-père, ce qui l'enthousiasma d'autant plus qu'il avait déjà lu de vagues allusions à ce personnage douteux, à propos duquel on ne trouvait aucune référence dans les registres publics, comme si une conspiration avait été jadis organisée pour en effacer à jamais la mémoire. Ce qui fut révélé plus tard était si effroyable, si abominable, qu'on ne peut s'empêcher de s'imaginer ce que les colons voulaient à tout prix effacer des registres et de la mémoire, ni de juger que leur raison n'était que trop valable. Jusque-là, Ward s'était contenté de fantasmer à propos du vieux Joseph Curven, mais en découvrant qu'il était directement apparenté à ce personnage banni de l'histoire, il résolut d'entreprendre des recherches systématiques à son sujet. Il réussit au-delà de toutes ses espérances en mettant à jour de vieilles lettres, des journaux, des mémoires inédites, enfouies sous les toiles d'araignée des greniers de Providence et d'ailleurs, autant de documents que leurs auteurs n'avaient pas jugé utile de détruire. Bon nombre d'entre eux ne proviennent pas de Providence, mais de New York, où la correspondance de Rhode Island est conservée au musée de la taverne Francis. Mais la source essentielle de la documentation de Ward est constituée, selon le docteur Willett, par les manuscrits découverts en août 1919 au fond d'une niche secrète, ménagée dans une maison délabrée d'Olney Court. Ce sont eux, sans l'ombre d'un doute, qui ont fait basculer l'esprit de Charles Ward dans la démence.